première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
François-Germain Robin, votre nom est accolé à celui de Luc Beyer de Règue, mais un peu plus petit.
Afrique Musée, réouverture intervure de l'Africa Museum, avec Guido Grisels, Marc Dubois et Mim Pané. Afrique, histoire, politique, journalisme, avec Françoise-Germain Robin, co-auteur de l'ouvrage posthume de Luc Beyer de Règue, intitulé « Congo, mémoire à vif », édition Mols.
Le livre était à l'origine un projet de Luc, lui avait été commandé par son éditeur Philippe Comélio, qui dirige les éditions Mols, qui était venu nous voir à la Thème Saint-Martin, où Luc avait une maison de famille. Je crois que c'était au mois de juin 2017, pour lui demander s'il acceptait d'écrire un livre à base de témoignages sur l'ex-Congo belge. Et sur le même principe que le livre qu'il avait fait 2 ans plus tôt sur la collaboration dans la Flandre pendant les deux guerres mondiales, et particulièrement la deuxième, où il avait pu retrouver non seulement des témoins, mais même des acteurs de l'époque, fort âgés certes, mais encore en vie. Et donc, ça avait eu un certain succès.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chansky.
Authentique, me tento, tententententum, stélé.
Le monde invisible.
Luc avait accepté et avait commencé à y travailler. À partir du mois de juillet 2017 et jusqu'à sa mort en janvier 2018, ce qui fait qu'il avait eu le temps d'interviewer un certain nombre de personnalités.
Afrique, histoire, politique, journalisme, avec Françoise-Germain Robin, co-auteur de l'ouvrage posthume de Luc Beyer de Règue, intitulé « Congo, mémoire à vif », édition Mols. Cette ex-colonie belge, le Congo, un territoire qui fait, je le rappelle, 80 fois la surface du pays, est-ce un territoire qui lui tenait à cœur ?
Oui, parce qu'il avait eu l'occasion de s'y rendre à plusieurs reprises, comme journaliste, pour des interviews de personnalités, pour des grands événements, et puis pour la RTB, quand il était donc à la RTB, à la fois au journal télévisé, puis après le journal télévisé, il a officié pendant plusieurs années sur la première. Donc oui, il était allé plusieurs fois, il était même allé en 2006, la dernière fois, c'était comme observateur pour les élections congolaises, l'élection du président Kabila.
François-Germain Robin, ce constat du Congo depuis son indépendance est un constat qui se
l'échec.
Veut...
Les administrateurs du Congo et les dirigeants belges qui ont nommé ces gens et qui ont décidé de la politique à mener n'ont rien prévu en matière de décolonisation. C'est comme s'ils avaient pensé que cette colonisation allait durer éternellement, quoi. Ils avaient vraiment rien prévu. Puisque en 1955 a été publié un plan de 30 ans pour dire qu'il faut commencer à préparer les Congolais à gérer leurs propres affaires. Et ça va durer au moins 30 ans avant qu'on réussisse à aboutir à quelque chose. Ça, c'était en 55 et 5 ans plus tard, c'était fini, quoi. Donc il y avait un retard considérable. Ça, j'arrive pas à comprendre parce que c'était une période de décolonisation mondiale dont toutes les puissances coloniales étaient en train de lâcher leurs colonies par la force des choses. Et donc, comment la Belgique pouvait-elle croire qu'elle allait échapper à ce mouvement général ? la plupart des richesses étaient évacuées vers l'Europe, vers la Belgique, et puis après, à travers le grand commerce international et les grandes sociétés, par exemple l'uranium qui a servi à faire la bombe d'Hiroshima-Nagasaki venait du Congo, d'une mine congolaise. Il avait été évacué vers les États-Unis tout à fait au début de la Seconde Guerre mondiale, et même peut-être un peu avant, justement pour être sûr qu'il ne tombe pas de mauvaises mains. Tout le monde savait que le Congo avait des richesses incommensurables, et encore on ne connaissait pas tout. À l'époque, on ne connaissait pas encore le coltan et les terres rares qui maintenant sont recherchées par toutes les puissances, et particulièrement la Chine, la Russie et toujours évidemment les États-Unis, mais les États-Unis, ça fait longtemps. Évidemment, ces richesses ont profité à la Belgique, ça c'est clair, hein. J'ai rencontré un Congolais qui disait, en se promenant dans les rues de Bruxelles, regardez, c'est merveilleux tout ce que les Belges ont pu construire grâce à ce qu'ils ont pu exploiter au Congo. Et c'est vrai, c'est en partie vrai. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y avait la puissance industrielle de la Belgique elle-même, avec ses minerais de fer, son industrie, le développement de l'industrie métallurgique et tout ça au 19e. Mais le Congo a quand même rapporté beaucoup.
François-Germain Robin.
Alors les gens d'église, Luc, tenaient énormément à les rencontrer. Avec lui, on en a rencontré un, le père Vanek, qui était à Colvézi, ou juste à côté de Colvézi, et qui travaillait pour l'Union Minière. En fait, il avait été recruté pour s'occuper des affaires sociales de l'Union Minière, et notamment de la formation des jeunes, des mécaniciens, des techniciens qu'il formait. Il avait créé une école de toutes pièces. Il ramassait des vieilles autos, il les faisait démonter, remonter, il apprenait la mécanique à tout un tas de jeunes qui ensuite étaient recrutés par l'Union Minière ou d'autres entreprises belges, puisque à l'époque, l'état le plus riche, c'était quand même le Katanga, le plus riche en minerais, en ressources de toutes sortes. Et il raconte un petit peu comment ça se passait. À l'origine, lui, il n'avait pas du tout l'intention de devenir prêtre au Congo et de s'occuper de tout ça. Mais bon, il n'a pas eu le choix, disons, l'a orienté, parce qu'il y avait l'Église orientée quand même ses prêtres selon les besoins du Congo. Et alors après, j'ai rencontré, malheureusement Luc n'était plus avec moi, les pères de Skeut, qu'il admirait beaucoup et qu'il avait mis sur sa liste, parce qu'il avait fait une liste des gens qu'il voulait absolument rencontrer. Et les pères de Skeut aussi, c'est pareil. Alors eux, c'était des broussards, c'était des gens qui établissaient des écoles un peu partout et des églises, bien sûr, dans le moindre petit village, et des écoles pour tous les enfants, mais c'était vraiment des écoles élémentaires. C'était l'enseignement le plus élémentaire qui soit. C'était apprendre à lire, à écrire, à compter et à chanter. Et ça se faisait en langue locale. Le français n'était enseigné aux jeunes Congolais qu'à partir du secondaire, et ils étaient peu nombreux à accéder au secondaire. Voilà. Donc, mais les prêtres ont joué un très grand rôle, et aussi, ils ont formé des prêtres, beaucoup. Eux, ils ont réussi là où le pouvoir civil non seulement n'a pas réussi, mais n'a même pas essayé de réussir. C'est vrai qu'ils ont formé des gens qui étaient capables de leur succéder. Et ils ont formé énormément de prêtres, à tel point qu'il y a maintenant des Congolais qui viennent pour remplacer les prêtres qui n'existent plus ici en Belgique. J'en ai rencontré un, le père Christian à Torombé-les-Béguines, qui est là depuis plus de 20 ans. Il y en a partout, il y en a beaucoup.
Afrique, musée, histoire, inspiration, Cécile Miguel, Une vie oubliée, par Thierry Genicot.
L'université de Lovanium a été créée en 1954 et c'était une extension de l'université catholique de Louvain. Mais c'était très tard, 54, vous vous rendez compte, c'était 6 ans avant l'indépendance. Avant, il n'y avait pas d'université pour les Congolais. Et il y avait très très peu de Congolais qui sont venus faire des études supérieures. En Belgique, on cite le chiffre, bon, il est controversé, il y en a qui disent qu'il y en avait un peu plus, mais en fait, de 7 universitaires au moment de l'indépendance. C'est pas beaucoup, 7. Comment voulez-vous diriger tout un pays? À l'époque, il y avait 14 millions d'habitants, mais avec son immensité, avec seulement 7 universitaires. Certes, on n'a pas forcément besoin d'être universitaire pour diriger un pays, mais c'est quand même une bonne chose d'avoir une très bonne formation.
Les fauteuils de l'auditoire sont confortables, Marc Dubois ?
Oui, je pense, oui.
Avez-vous rencontré des anciens coloniaux en écrivant ce livre intitulé « Congo, mémoire à vif et mémoire est au pluriel » ?
Oui, les mémoires est au pluriel parce qu'évidemment, chaque mémoire est singulière. Chaque personne a sa mémoire, les choses qui l'ont marqué, dont il se souvient. Il y a dans ce livre des témoignages d'anciens coloniaux, effectivement, de planteurs ou de chefs d'entreprise, et aussi des témoignages de Congolais qui ont vécu cette période d'avant l'indépendance et après qui ont participé au pouvoir sous Mobutu. Il y en a plusieurs qui ont été ministres ou conseillers de Mobutu et qui témoignent justement de la manière dont les choses ont dérivé très vite et se sont aggravées très vite à partir des années 70 en fait. Mobutu a pris le pouvoir en 65, 10 ans plus tard, ça n'allait plus. Il y a un prêtre qui dit au début, c'était merveilleux, c'était black is beautiful, on trouvait que Mobutu faisait des choses magnifiques, et puis après ça a très vite dégénéré quand il a été pris de lubie, il a tout gâché finalement. En se mettant de l'argent plein les poches et aussi en en mettant plein les poches de ses amis, de son fief, de son clan, malheureusement. Voilà, donc il y a des témoignages très variés, très divers, et des simples gens aussi, des gens qui allaient là-bas, qui n'étaient pas, j'appellerais pas ça des coloniaux, des gens qui allaient là-bas pour enseigner, pour soigner, pour avec l'esprit d'aider, de coopérer. Aider au développement de ce pays. Et donc, il y a toutes sortes de situations qui sont très diverses. Il n'y a pas que des gens qui vivaient fastueusement et complètement séparés du reste de la population. Il y a par exemple un planteur, André Bernard Hérégaud, qui vivait dans une plantation très éloignée, qui partageait exactement le même sort que les Congolais qui travaillaient avec lui dans la plantation, même si lui avait un grade plus élevé, était un dirigeant, mais il ne vivait pas fastueusement, il avait le même genre de vie. Alors qu'il y a d'autres exemples à Kinshasa de gens qui avaient des positions éminentes et qui avaient une vie fastueuse.
Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
On n'est pas indépendant quand on ne maîtrise pas ses richesses. Or, le Congo ne maîtrise pas ses richesses. Elles sont toujours maîtrisées par des grandes sociétés multinationales, par des sociétés étrangères, par des pays étrangers. Les pays voisins interviennent énormément dans les affaires du Congo, au point d'avoir essayé de le conquérir. Quand on pense au Rwanda, Burundi, Ouganda surtout, qui sont vraiment intervenus, y compris militairement. Maintenant, apparemment, c'est plus le cas, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'interférences qui font que moi, je considère que le Congo n'est pas réellement indépendant puisqu'il ne maîtrise pas ses richesses. Et ça, c'est le nerf de la guerre quand même. Hein. On dit toujours que c'est le nerf de la guerre, l'économie. Et si on ne maîtrise pas son économie, c'est une indépendance tronquée, quoi. Et certes, il y a une indépendance. Ils ne sont plus sous le joug colonial, mais c'est une indépendance tronquée.
Redonner une autre vie à un monument impressionnant de Guiraud, qui, quand Léopold II a choisi cet architecte de Paris, il voudrait aussi montrer que la Belgique n'était pas très importante dans l'histoire. Parce que Paris a été vraiment très impressionnant pour Léopold II. Donc, après 1900 Paris, donc choisir Guiraud pour ce musée. Mais la transformation de ce musée, c'était le musée de Congo, et je pense que maintenant on a dans un autre temps, un autre monde, que il faut, je pense que c'est un musée qui va être
Marc Dubois.
Changé de dimension, et c'est pour ça qu'on doit avoir aussi ce projet d'extension. Et les extensions, c'est pas une extension avec encore de salles, encore plus, pas beaucoup, mais de redessiner, repositionner les objets qu'on a. On a des milliers d'objets ici, c'est incroyable. Mais avec le projet de Stéphane Bell, je pense que avec le pavillon d'entrée, donner aux gens qui vont visiter le musée d'avoir des choses plus faciles pour entrer, le vestiaire, tout ça, que ça n'existait pas dans le bâtiment avant que Guiraud a construit. Et le projet de Stéphane Bell est vraiment très simple. C'est une boîte vitrée, on entre, on va directement où on doit aller. Et je pense que ça, c'est aussi le plan du Guiraud, est très simple. C'est un rectangle avec des cours d'intérieur, des grandes salles. Donc, c'est assez clair. Et ce que Bell a aussi fait, c'est ce même esprit, même l'architecture, mais même l'esprit de faire une sorte de rigueur de plan dans l'architecture qui va relier l'extension, ce pavillon vitré, avec le bâtiment existant de Guiraud.
Je suis extrêmement fier et honoré,
Guido Grisels,
de pouvoir vous accueillir ici aujourd'hui, exactement 120 ans après la création du musée du Congo, dans notre nouveau musée.
Nouveau musée, il n'est pas tellement nouveau finalement. C'est le musée tel qu'il était, auquel on a fait la toilette, modernisé les salles, et puis on a construit un nouveau bâtiment qui est très moderne et très agréable. Mais les collections sont les mêmes. Simplement, elles sont présentées d'une autre manière. Les étiquettes qui ont été mises sous chaque œuvre ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'elles étaient avant. Disons qu'on a décolonisé les étiquettes, mais les objets, c'est les mêmes. Les collections sont les mêmes. De toute façon, il y a un fond là qui est un fond merveilleux, extraordinaire. Il y a toute l'histoire de l'Afrique et pas seulement du Congo qui se trouve dans ces réserves. Il y a énormément à faire avec ça. Il y a encore beaucoup à faire. Je pense que la rénovation, c'était un premier pas. Et ça va continuer. Il y a énormément de recherches historiques. C'est ça qui est bien. C'est dommage que ce soit un des seuls lieux où il y ait une recherche historique sur le Congo et sur l'Afrique centrale. Il faudrait qu'il y en ait en Afrique même.
Avec une toute nouvelle exposition permanente, avec un nouveau tram général sur notre passé colonial et sur l'Afrique contemporaine, et dans une nouvelle infrastructure dont vous voyez déjà en ce moment notre nouveau auditoire. Nous sommes extrêmement fiers de cette nouvelle infrastructure et je tiens à remercier la régie de bâtiment qui est l'adjudicateur de ces travaux pour le travail qu'ils ont fait et pour la bonne collaboration. Je tiens aussi à saluer, il vient d'entrer ici, Stéphane Bell, qui est l'architecte de cette nouvelle infrastructure.
Au mois de décembre de l'année dernière, 2018, c'est-à-dire exactement en même temps, et le même jour, je crois, que l'inauguration du nouveau musée de Tervuren. Et puis il y en a un qui, paraît-il, est très bien à Kigali, au Rwanda, qui conserve des œuvres qui avaient été restituées au Rwanda à l'époque de Mobutu et qui ont été parfaitement conservée, alors que celles qui avaient été restituées exactement au même moment au Congo ont toutes disparu. Le directeur du musée, Guido Grisel, me disait on avait restitué 120 œuvres, elles ont toutes disparu, nous les rachetons sur les marchés européens, américains, pour les récupérer. Ce qui est évidemment une triste fin.
On avait un très beau musée dans un bâtiment historique. Mais c'était une exposition qui était très datée, elle n'avait plus changé depuis les années 50. Donc on présentait toujours le regard de la Belgique sur le Congo d'avant la décolonisation. Il y a beaucoup d'aspects qui ont un cachet très colonial dans notre musée. Et il y a le double L, l'anagramme de Léopold II, qui se trouve 45 fois dans le bâtiment. Et aussi nous avons des statues comme le statut de Menton avec le titre « La Belgique apportant la civilisation au Congo ». Donc un changement était vraiment nécessaire. On voulait vous montrer une approche beaucoup plus critique de ce paquet colonial et pas seulement le message que la Belgique a apporté à la civilisation que nous avons faite pendant de nombreuses années.
Stéphane Bell a commencé dans les années 80. Et un premier grand projet, c'est le musée de Raville à Machelen, tout près de Deinz. Il a fait des musées aux Pays-Bas, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Il a fait le grand bâtiment de justice, hôtel de justice à Gand, par exemple. Mais il a fait aussi des maisons. Donc c'est quelqu'un avec un parcours déjà de 30 ans, donc c'est pas le plus jeune. Mais c'était avec aussi ce projet-là, avec une compétition organisée par la régie des bâtiments. Donc c'était, dans le temps, on donnait des projets un peu à la carte politique, on peut dire. Mais non, ce projet-là était un résultat d'une compétition que la régie des bâtiments a organisée il y a, je pense, 12 ans.
De vous présenter un regard critique sur le passé colonial, de montrer des collections dans un nouveau cadre de physique et morale, de entrer en relation avec l'Afrique centrale contemporaine dans l'exposition permanente et de diffuser les connaissances, offrir un forum et encourager les positions et les opinions sur le développement durable. Le colonialisme comme système de gouvernance qui est basé sur l'oppression militaire, sur une gouvernance autoritaire et raciste et sur une exploitation d'un pays, on ne peut que prendre distance avec les yeux d'aujourd'hui.
Vous me disiez, Marc Dubois, même le mobilier d'époque, il est conservé, il est protégé, même les armoires.
Oui, on a comme monument, il y avait des statues qu'on ne pouvait pas enlever, des statues, quand on voit maintenant aujourd'hui, « Ouh, maman, c'est vraiment, vraiment les choses coloniales qu'on ne peut plus imaginer. » Mais aussi les vitrines. Les vitrines sont intégrées dans le bâtiment. Et donc, quand on a protégé le bâtiment, on a dit aussi les vitrines. Et c'était vraiment impressionnant de revoir ces vitrines, parce que je pense que avant que c'était fermé, tout le monde regardait ce musée avec ses grandes vitrines, avec le verre et le bois vraiment ensemble. Heureusement qu'on a aussi protégé ça. Et les scénographes ont vraiment utilisé l'aspect du mobilier. Ce ne sont pas des chaises, hein, ce sont des vitrines. Ça donne une sorte d'aspect d'histoire, mais on a aussi montré des choses au milieu, des nouveaux possibilité de présenter avec des vidéos, avec tout. Donc, on peut voir ce musée aussi comme une histoire de présentation aussi. Je peux dire que c'est un peu didactique, peut-être, mais ça montre qu'un bâtiment comme ce musée de Tervuren est vraiment un aspect de notre histoire d'architecture, même si c'était par un architecte qui vient de Paris.
Ça ne veut pas dire que l'on n'a pas beaucoup de respect pour beaucoup des individus qui ont travaillé là-bas, mais comme système de gouvernance, on peut que prendre distance et le condamner comme immoral.
Afrique Musée, réouverture à Tervuren de l'Africa Museum, avec Guido Grisels, Marc Dubois et Mim Pané. Afrique, histoire, politique, journalisme, avec Françoise Germain-Robin, co-auteur de l'ouvrage posthume de Luc Beyrderecq, intitulé « Congo, mémoire à vif », édition Mols. Nous sommes dans la rotonde, et même pas née.
Oui, on est dans la rotonde principale du musée, Africa Museum, comme vous le dites maintenant.
Et les sculptures qui nous entourent, elles ont changé?
Ah, ça c'est une bonne question. En fait, ces sculptures n'ont pas changé. Moi, quand le musée a fait appel aux artistes, il y avait un ami qui faisait partie du groupe de Sisi de Diaspora qui m'a dit qu'il faut introduire un projet pour la rotonde principale. J'ai tout de suite refusé. Non, ça ne m'intéresse pas ce musée colonial et participer là-dedans. J'étais, c'est très, très radical. Et puis, à un moment donné, quand je suis allé regarder un peu cet appel, je trouvais que la pièce allait être dans la rotonde et qu'elle allait être placée dans l'étoile, exactement à l'endroit où on est là, cette étoile. Et à cet endroit, il y avait la tête du roi Léopold II qui était là. Je dis, waouh, ça m'intéresse par contre. Et puis, on a la lumière qui se propage dans cette rotonde au travers de cette coupole. Et je trouvais ça très intéressant, surtout la journée. Et je me suis dit, mais ça, c'est un projet intéressant. C'est comme si on nous tendait la main.
En même temps, notre musée prend sa responsabilité maintenant pour le fait que pendant de nombreuses années, on a diffusé un message colonial. Pendant de nombreuses années, on a présenté à notre public une image que les cultures de l'Ouest sont supérieures aux cultures de l'Afrique. Et je tiens à prendre au nom du musée notre responsabilité pour cela. Et on espère que, avec toutes les douleurs du passé, on ne pourra pas se réunir autour de ce passé. Moi, j'espère qu'on pourra se réunir avec les diasporas africaines, avec les communautés africaines dans le futur.
Pourquoi l'Afrique ? Simplement notre proximité avec le Congo belge. Quand on était petit, on était habitué à voir des choses qui revenaient de là-bas. On a été habitué à voir de l'art premier, parce qu'on dit art premier maintenant. On a vu chez des collectionneurs, on a vu surtout chez des antiquaires. Il y en avait beaucoup, d'étrangers qui venaient à Bruxelles voir des choses, même aux puces. Et puis, c'est peut-être pas l'art premier qui est très, très compliqué à comprendre, vraiment. C'est surtout les couleurs de l'Afrique. Les perles, les tissus, les paniers, les bijoux, les robes, les coiffures, les peintures sur le corps. Je dirais que ce serait plutôt ça, mon Afrique.
Isabelle de Borgrave.
Arrivée naturellement parce qu'il y avait ce passé dans l'esprit. Mais on est quand même pas très loin du Matongé. Et je les trouve très sympathiques et de temps en temps j'y vais parce que j'adore les tissus. Alors ces tissus sont beaux parce qu'il y en a beaucoup ensemble. Quand on en prend un, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir. Mais c'est surtout merveilleux de voir comment les femmes s'habillent. Quand vous voyez quelqu'un d'élégant dans la rue, c'est souvent une Africaine. Ils ont un sens absolument merveilleux de mélanger les tissus, de se faire des coiffures formidables. Et je crois que c'est un petit peu parti de ça. Et moi, il me suffit que, avec cette espèce d'amour du tissu depuis toujours, il suffit d'en avoir un en main et hop, ça part. Alors, le premier tableau, c'était une pile de tissus. Et puis, je suis parti, quoi. J'ai commencé à rêver. Il faut dire que je n'ai jamais été en Afrique. Donc, j'ai voyagé dans les livres, j'ai voyagé dans la rue, dans Matongé, dans les quartiers à Paris, des quartiers magnifiques. Où vous voyez des tas d'Africains qui vendent des objets sur les trottoirs même. C'est tellement inspirant, on ne sait pas très bien ce qu'on va en tirer, mais en tout cas, ça vous nourrit. Et alors, bien sûr, j'ai une très belle bibliothèque, et il suffit que je m'assieds là, que je prenne 3-4 livres, et puis c'est parti. Et puis les couleurs. Alors les couleurs, je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, parce que je suis très à l'aise avec les couleurs. J'en ai jamais assez. Et les assemblages me poursuivront toute la vie et feront que j'arrêterai jamais. Parce que ce bonheur de mélanger deux jaunes et un noir, quel jaune, quel noir, rien n'est sorti du pot comme ça. Tout est vraiment travaillé comme la cuisine, quoi. Une cuisine de sorcier.
Aimé Mpane.
L'idée, c'est de montrer espèce d'une tête, comme c'est une carapace en bois d'un Africain qui est prêt, qui montre toute sa dignité, qui est positif. Et à l'intérieur, j'ai travaillé avec une matière qui est le bronze, en fait, oui. À l'intérieur, on a cette énergie qui monte et qui va plus haut pour bougeonner, donner un peu les idées positives, qui est un symbole de la couronne aussi. Donc, c'est en fait invité au dialogue. Et tout au sol, tu as cette espèce de lave qui coule. Ça peut être la richesse, ça peut être aussi des idées négatives, ça peut être le passé. C'est-à-dire c'est invité pour qu'on réfléchisse ensemble sur le passé et le présent et qu'on construise le futur et que le futur soit meilleur et qu'on soit tous ensemble dans cette collaboration-là. C'était ça, en fait, l'idée. Et au niveau scénographie, mon idée, c'était quand on rentrait, on vient de loin, qu'on soit attiré par la pièce, par la complexité des tous ces matériels que j'ai utilisés au niveau technique. Et en arrivant, on sera obligé de regarder, de suivre cette lave qui monte, qui va plus haut, qui devient comme une couronne. Et là, on sera obligé de regarder tout en haut de la rotonde. On sera ébloui par la lumière qui vient en haut. Et du coup, tout ce qui se passe dans les niches, qui sont des images très stéréotypées, des images vraiment coloniales, ça devient secondaire. Et du coup, mon travail peut dialoguer avec ce qui est dans les niches. C'était ça l'idée, en fait, que je voulais monter dans cette place. Donc, c'est-à-dire que tout s'est passé, et toutes ces idées coloniales qu'on est en train de coloniser, que ça vienne comme du passé, que ça vienne comme des archives pour s'informer et veiller à ce que ça ne se reproduise plus. C'est ça, en fait, mon intention dans cette pièce. Et arriver à aller plus loin.
Isabelle de Borgrave, vous évoquiez le Congo belge. Il y a un musée que Léopold II a construit pour montrer aux Belges ce qu'était, ce qu'ils venaient d'acheter. Mmh. Vous y étiez quand vous étiez enfant ?
J'y étais 1000 fois. J'y étais beaucoup. J'ai adoré ça. J'étais même un peu triste. Alors, il y a eu l'exposition 58 qui nous a montré des choses. Il y a Tata, évidemment, qui nous a bercés quand on était petits. Et j'ai hâte d'attendre la réouverture du musée pour y aller. L'endroit est fabuleux. Ce sera très intéressant de voir ce qu'ils y ont fait. Et je crois que j'aurai encore envie de faire beaucoup de choses quand j'aurai fait le tour du musée là-bas. Je pense que des gens qui iraient au musée et viendraient ici verraient peut-être une version très colorée, très, je dirais, joyeuse, parce que l'Afrique n'est pas toujours joyeuse. Et je prends les choses, je les prends comme je les aime, et je les digère et je les redonne à ma façon. Un artiste qui invente quoi que ce soit, s'il n'y avait pas les musées, s'il n'y avait pas eu les artistes d'avant, les artisans, il n'y aurait rien du tout. Moi, je me sens très très fort, comme dans le temps, un artisan. Artisan d'un maître, et puis peut-être petit à petit, je deviendrai un maître. Mais je crois qu'il faut rester très calme vis-à-vis de tout ça, il faut rester très humble.
Je me souviens, Isabelle de Borgrave, m'être rendue un jour au Sénégal, où sont implantées des entreprises de là-bas, qui travaillent pour les grandes maisons d'ici, avec des tissus magnifiques. Ça vous dit quelque chose ?
Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont inspirés, des grands créateurs de mode, d'ailleurs. Tous les grands créateurs, même Patrice Van Houten, même Hermès, a certainement fait beaucoup de choses, fait faire des choses au Sénégal. C'est surtout une maison comme Hermès qui est une maison du voyage, je dirais. Ça paraît assez normal qu'ils aient été se balader là-bas.
Oui, quand vous me disiez « je voyage par les livres » et je pensais à la maison Hermès qui fait voyager par les vitrines.
Oui. Là, j'ai participé de temps en temps. Je participe de temps en temps à des vitrines pour la maison Hermès et d'autres d'ailleurs, mais vraiment comme une artiste. Je ne suis pas une étalagiste, c'est encore un métier différent de placer les choses. D'ailleurs, il y a toujours une étalagiste de la maison qui vient à un moment et qui installe les objets. Moi, ce que je crée, c'est un décor, une pièce, une boîte à rêver.
Pouvez-vous décrire, Isabelle de Borgrave, la pièce qui se trouve derrière moi ?
Je dirais que ce serait comme un objet en bois qui serait incisé. Et cet objet, c'est un mix entre une forme qui peut être un pot, une sorte de casserole de bois, ou peut-être une pipe, ou peut-être un manche d'un sceptre. Mais les incisions ressemblent aux peintures des Noubatko, qui sont les peintures qu'on retrouve dans certaines parties de l'Afrique sur les corps quand ils se peignent pour la guerre. Maintenant, ils le font pour la guerre, autrefois pour la danse, pour la sorcellerie, pour diverses occasions. Et donc, c'est souvent un rappel, bizarrement, de la pintade, parce qu'il y a des pintades partout, il paraît. J'ai jamais été le noir et le blanc. Alors, il y a cette forme qui n'est donc pas un oiseau, qui n'est pas une casserole, qui n'est pas un... mais qui est quelque chose qui peut vous faire penser à. Et puis derrière, ce sont des aplats de jaune, avec une toute petite ligne d'un jaune plus vif, qui réveille tout le tableau. Et il y a un blanc qui n'est pas blanc et un noir qui n'est pas noir, qui est plutôt prune, très foncé. C'est là où, quand je vous dis j'ai une passion pour la couleur et quand je fais ça, je suis en Afrique, je suis dans la lune, je suis dans les nuages. C'est le bonheur absolu parce qu'il y a en même temps une propreté dans le tableau. Même s'il y a une mixture, une cuisine dans les couleurs, à la fin, chaque aplat a sa propre identité et nécessairement, certains doivent être extrêmement purs pour mettre en valeur ceux qui, au contraire, sont mouchetés, gravés, voilà.
Afrique Inspiration, dans l'atelier d'Isabelle de Borgrave. À quoi a-t-on affaire, tel que je vous écoute, on pourrait dire un tableau, une peinture? Est-ce ça?
Je ne me mets pas à une table en disant « aujourd'hui, je vais faire un tableau ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je peins. Je peins, parfois je déchire. Vous avez vu que tous les tableaux sont plissés. Donc ça vient d'une longue histoire de plissage qui a commencé quand je me suis intéressée à l'histoire de Fortuny, cet Espagnol qui vivait à Venise, pour qui la ville de Venise m'a commissionné de faire toute une histoire autour de lui, le raconter, raconter ce qu'il a regardé, ce qu'il aimait, ce qu'il faisait. Et donc, il y avait ces robes plissées que j'ai fait à l'époque. Ensuite, en ayant ces plissés en main, et en les peignant et en montant, je me suis dit, mais ça, c'est un médium extraordinaire. Au lieu d'avoir quelque chose de plat, puisque j'aime bien le dimensionnel, ça me paraissait évident que les futurs tableaux seraient plissés. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Alors là, on tombe dans une sorte d'anamaforme. C'est-à-dire que quand je l'ai peint, c'est beaucoup plus grand. C'est 3,5, 4 fois la taille de ce qu'on va voir. Donc on ne le voit pas. Ce n'est qu'après les plis que la chose apparaît. Et ça m'amuse beaucoup. Parce qu'il y a un double jeu. Il y a cette recherche de couleur, il y a l'effet et il y a la forme. Et la forme, elle est tellement différente. Et par exemple, un angle, une courbe, ça a l'air de rien. Mais c'est complètement différent à l'arrivée qu'au départ.
Je me souviens que j'étais venu vous voir il y a une quinzaine d'années pour une question de papier, de travail sur le papier. Mmh. Avons-nous affaire à du papier?
On reste dans le papier, donc le papier reste toujours ma première base, mon médium de base. Il y a d'ailleurs un rouleau de 4,5 km qui arrive chaque année, et encore cette année, on l'attend parce qu'on l'a employé. Il y a deux sortes de papier. Il y a un craft qui est plus épais et qui fonctionne très bien avec la couleur parce qu'il est plus résistant, et puis un papier plus fin avec lequel je fais les robes et tous les objets, parce qu'il y a les objets, il y a les lustres, il y a même tout le travail de bronze est d'abord fait en papier. J'en utilise beaucoup. D'ailleurs, si on rentre dans l'atelier, les gens me disent toujours « mais quel calme, quelle sérénité ». Il n'y a pas de bruit de machine. Il y a le bruit de déchirer le papier, totalement de le chiffonner, de le plisser, de le peindre. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Le froisser, ça donne une espèce de musique très calmante et qui passe par les mains. Il n'y a pas que moi ici. Disons que je suis le seul peintre, ça c'est très important de le savoir. Toute la couleur est maintenue comme un chef d'orchestre dans mes mains. Ça, personne n'a accès à la couleur parce que c'est mon histoire. Mais par contre, il n'y a pas dans le cas des tableaux, mais dans le cas des objets, comme par exemple un lustre ou peut-être même un meuble, l'atelier travaille, et en tout cas pour les robes, il y a des tas de petites mains aussi, il y a tous les accessoires, les chapeaux, les chaussures, et comme cette histoire de mode continue, plus que jamais, il y a même de jolis projets, on a besoin de beaucoup de petites mains autour de soi.
Marcel Dalloz.
À l'époque où Picasso vit avec Françoise Gillot, nous avons d'ailleurs ici une allusion à la relation entretenue par Françoise Gillot avec Cécile Miguel, puisqu'il y a une lettre exposée en vitrine et qu'on a la reproduction d'un dessin.
Ce qui est étonnant dans cette vie d'artiste, c'est que, et j'insiste beaucoup sur cela, c'est que en 1949, par exemple, donc il quitte la Belgique en 1947, il rentre en Belgique en 1964, et en 1949, Cécile expose, par exemple, à Lucerne. Et c'est une exposition à trois. Avec qui? Eh bien, avec Picasso, Miro et elle, à la Galerie Nationale de Lucerne. En 1952, elle expose à Valoris avec les amis de Picasso. Ils sont très proches à ce moment-là de Picasso et surtout, surtout, faut-il le dire, de François Gillot. Et François Gillot, la seconde épouse de Picasso, fait des portraits, des dessins de ses cils. On en connaît 6 ou 7 versions, dont une d'ailleurs vient d'être vendue il y a peu de temps, 2 ou 3 ans, à Saint-Cyr de Cornette à Paris. Quoi.
À Ytre, au musée Marthe Donat, jusqu'au 19 janvier, Cécile Miguel, Une vie oubliée. Avec Yves Namur et Marcel Dalloz.
Les incrustations, coquillages, ou autres. En même temps, avec cette densité de la matière, ça fait songer aux préoccupations des nouveaux réalistes au début des années 60. Même si eux prélèvent une partie du réel, elle introduit des morceaux de réel dans une peinture qui reste tachiste.
Yves Namur, Une vie oubliée. S'agit-il d'une question de mémoire ?
Oui, c'est aussi une question de mémoire. C'est aussi une question de mémoire. J'aurais peut-être dû dire une vie presque oubliée. Elle ne l'est pas entièrement, puisque nous sommes quelques-uns à avoir toujours la mémoire de Cécile Miguel, l'œuvre, les peintures de Cécile Miguel autour de nous, des poètes comme Jean-Pierre Verheyen, par exemple. Mais depuis son décès, Cécile Miguel est décédée en février 2001, donc ça fait près de 20 ans. Son œuvre n'est apparue nulle part et sa vie, quelque part, est oubliée ou presque oubliée.
Elle est très marquée par la luxuriance de la végétation et par la lumière aveuglante de la Provence. Et donc, elle réalise des dessins qui ont parfois un petit goût de maticien, voilà, ici, ou alors dans certaines œuvres peintes, qui évoquent, à mon avis, à la fois Matisse et Bonheur.
Qui était dans le sud, à Saint-Paul-de-Vence, à Vence, et puis dans d'autres. Ils ont beaucoup déménagé durant cette période, avant de s'établir définitivement à Ligny en 1964. Ils ont croisé tout ce que l'on pouvait croiser à cette époque. Le critique d'art André Verdet, qui aimait beaucoup les tableaux de Cécile, Jacques Prévert, qui écrit dans La pluie et le beau temps un texte qui s'appelle Soleil de Mars pour Cécile Miguel. Il décrit un tableau de Cécile Miguel. Il entre dans l'atelier à Saint-Paul-de-Vence de Dubuffet, qui commence à leur montrer des tas de dessins. Ils vont à Paris chez Michaud dans les années 50, où Michaud recevait peut-être encore à ce moment-là. Ils croisent Chagall. Ils vont voir Plessandra et des tas de gens, dont par exemple André-Pierre de Mandiargues, qui en 1958, André-Pierre de Mandiargues se trouve dans le bureau de la NRF, occupé à l'époque par Jean Paulhan, et il voit 2 tableaux magnifiques, et il écrit à André Miguel: Je suis admiratif, il y a 2 tableaux, dont un très grand, mais qu'est-ce que c'est très beau, c'est magnifique. Et puis je m'approche pour voir qui en est le peintre, et je vois Miguel. Ben c'est à Cécile, c'est incroyable. Il faut absolument qu'on lui fasse une exposition, c'est pas possible, etc. Et j'ai l'impression que de ce siècle ne restera peut-être de tout ce fratras de peintres, il ne restera que quelques femmes. André-Pierre Dumardiac en 58. Et puis Cécile rentre en Belgique en 64. Elle peint encore jusqu'en les années 80, certainement, au moins, où là, elle a une production qui est quand même importante.
Et puis, d'un coup, elle revient à une peinture figurative, mais qui est étonnante. Par certains aspects, c'est une humanité primitive, primaire, avec de grandes figures un peu spectrales, où apparaissent souvent des yeux qui nous fixent. Ce sont ses yeux qui n'explorent plus le monde extérieur, mais plutôt les profondeurs de son inconscient. Elle a parlé un jour du vaste et multiple espace d'une vie seconde.
Remettant tout en question, au miroir de la mort, membres, corps perdus, double, triple, s'en viennent les dansantes têtes à long cou.
Il y a une véritable obsession pour les yeux. Et alors, ce sont des personnages filiformes qui sont parfois semblables à des insectes. D'ailleurs, elle parle de personnages insectes.
Et les dansantes têtes à long cou, c'est la marque de Cécile Miguel.
Oui, il y a toute une partie de son œuvre qui est un mélange, une espèce d'amalgame entre le texte et l'image. Et alors, elle reprend des extraits, des vers, des morceaux de phrases de certains de ses collègues écrivains, Joyce Mansour ou Achille Chavée.
Là, je pense que personne n'a abordé ce sujet-là avec une telle récurrence, en tout cas. Et dans un autre texte, il dit « ses yeux en possessif, ses yeux interrogent la mort ».
Elle a beaucoup fréquenté les poètes Jean-Paul Ange, René Char, bien sûr, et Prévert lui a consacré un très beau poème, dont l'original est dans la chapelle.
Cette exposition au musée Marthe Donnas de Ytre permet quelque part peut-être un peu de ressusciter un peu Cécile Miguel, ou du moins quelques-uns des aspects de sa vie.
Elle est vraiment sensible à la lumière de ces régions et aux couleurs vives. Et en même temps, on voit peut-être déjà dans certaines un goût pour l'épuration des formes vers, on peut le dire, une certaine abstraction de la nature qui va déboucher sur les grandes toiles tachistes de 1957.
Oui, la peintre, la cartoniste, la collagiste aussi, celle qui dessine. Une quarantaine de peintures et de dessins qui couvrent la période 1949 à début des années 2000, puisqu'elle est décédée en 2001, et que les dernières années, Cécile s'est contentée souvent de dessins plutôt que de peinture, n'ayant probablement plus la force de tenir ou de monter à l'étage, monter dans son atelier pour travailler.
On ne sait pas avec vraie certitude si elle a été influencée par Pollock, mais ces toiles-là sont peintes un an après le décès de Jackson Pollock, où elle se livre à une gestuelle frénétique et avec des couleurs qui sont empâtées par couches successives.
Et donc on passe de périodes telles que les périodes tachistes, diront pour évoquer quelqu'un de connu, un Pollock par exemple, hein, sur des périodes plus où finalement seul reste le blanc, la lumière. On dirait que tout se détache et comme ses signes.
Et elle va prolonger dans cette veine-là au début des années 60 en osant même introduire dans ses œuvres des objets.
Afrique Musée, réouverture à Tervure de l'Africa Museum avec Guido Grisels, Marc Dubois et Mme Panet. Afrique, histoire, politique, journalisme, avec Françoise Germain-Robin, co-auteur de l'ouvrage posthume de Luc Beyrderecq, intitulé Congo, mémoire à vif, édition Mols. Afrique, inspiration, dans l'atelier d'Isabelle de Borgrave.
Une vie oubliée, oui, absolument. C'est Yves Namur qui a proposé ce titre parce qu'effectivement, à une certaine époque, dans les années 80, elle a décidé de se mettre en retrait de la scène artistique et du marché. Ça l'a condamnée à l'oubli.
À Ytre, au musée Marthe Donnas, jusqu'au 19 janvier, Cécile Miguel, une vie oubliée, avec Yves Namur et Marcel Dalloz.
Elle refuse les marchands. Elle ne veut plus avoir affaire aux marchands. L'une des dernières expositions, c'est à la galerie Les Contemporains à Bruxelles en 1961. Et il y a cette rétrospective superbe que l'on doit à Achille Béchet. C'est grâce à Achille Béchet, je pense, que l'œuvre de Cécile Miguel est aujourd'hui conservée quelque part. Et Achille Béchet organise au musée des Beaux-Arts de la ville de Mons une rétrospective qui occupe 6 ou 7 salles avec 200 tableaux de Cécile Miguel. Et puis c'est le silence. C'est le silence quasi absolu jusqu'à aujourd'hui.
Alors sa poésie, comme celle de son mari, sont publiées, donc accessibles. Mais sa peinture n'était plus visible. Elle souhaitait une mise à distance. À l'extrême fin de sa vie, elle a senti que cet oubli était peut-être dommageable. Et elle a demandé à Yves Namur de faire en sorte que son nom et son œuvre ne disparaissent pas. Et donc nous avons la chance de l'exposer aujourd'hui à Ytres.
Afrique, musée, histoire, inspiration, Cécile Miguel, une vie oubliée, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.